Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Asselet, bonjour chers amis.
Ravi de vous retrouver Daniel dans le cadre de nos conversations. Et Daniel, c'est la fin de votre séjour en Israël. Vous y étiez pour environ un mois, quelque chose comme ça. Et comme c'est la fin de votre séjour, eh bien c'est peut-être le moment, si vous le voulez bien, de faire avec vous une synthèse du monde tel qu'il est perçu en Israël et par Israël.
Oui, c'est le bon moment parce que d'abord il règne un calme, disons relatif, à la fois en Israël et dans le monde. Sur le front intérieur, il y a la bagarre, la division du peuple israélien autour de la réforme de la Cour suprême a été mise en pause. Mais là, on va peut-être assister à un redémarrage puisque le budget de la nation vient d'être voté et que en même temps, les manifestations ont un petit peu dérivé chaque semaine dans les grandes villes, surtout à Tel Aviv. Elles sont passées d'une hostilité à la réforme de la Cour suprême à, au fond, une remise en cause de tout ce que fait le gouvernement. Alors du coup, ça divise les manifestants, ça réduit le nombre des manifestants parce que ça génère des conflits internes. Et donc le Premier ministre peut se sentir conforté dans l'idée qu'il peut peut-être essayer de passer en force. Et donc ici, il y a une inquiétude, mais qui n'a pas encore de résonance puisque rien n'a redémarré. L'intifada, enfin, ces attentats palestiniens qu'on nomme ici l'intifada multifront, ont cessé. Les factions palestiniennes ont pris des coups terribles. Ils sont en train de panser leurs plaies, mais en même temps, ils préparent, c'est sûr, de nouvelles attaques. On vient d'arrêter, et ça, c'est quand même très inquiétant, un arabe israélien qui préparait une attaque majeure sur Israël. Donc, si vous voulez, c'est le calme, mais c'est quand même l'inquiétude. Sur le front extérieur, pour ces raisons intérieures de menaces à la fois de l'Iran et des Palestiniens, et aussi le fait que le monde est en tension, est en conflit, ce sont les problèmes de sécurité qui dominent ici. Et en particulier au moment où il y a eu cette conférence annuelle qui s'appelle la conférence d'Herzliya, la plus grande conférence géopolitique de l'année ici en Israël. J'ai eu la chance de pouvoir y assister. Elle se déroule évidemment à Herzliya, dans le cadre de l'université qui s'appelait IDC, qui s'appelle aujourd'hui Reichmann, une université privée mais qui est une véritable université. Les généraux et le chef d'état-major sont venus expliquer à la fois les défis et l'état de préparation d'Israël. Et ça génère vraiment un grand sentiment d'assurance dans la mesure où on voit des généraux qui ont parfaitement la maîtrise des défis et la maîtrise des réponses. Donc, une certaine réassurance et en même temps une clarification des défis. Ils viennent du monde chiite. C'est l'Iran en tête, et puis tous ces supplétifs, les États qui sont au nord d'Israël, notamment l'Irak, mais surtout la Syrie et le Liban, et aussi toutes ces factions palestiniennes qui ne sont pas sunnites, mais qui sont financées par l'Iran et qui les met en concurrence pour faire du mal. Et au fond, ça fonctionne assez bien. Par bonheur, sur le camp sunnite, ça va beaucoup mieux pour Israël. La Turquie, qui est en pleine élection, et donc on attend peut-être le remplacement d'Erdogan, mais même lui-même s'est déjà rapproché d'Israël, donc là on a une certaine réassurance. Quant aux pays arabes, et ça c'est quand même très clair, ils sont toujours dans une perspective de coopération avec Israël, que ce soit ceux qui ont signé les accords d'Abraham, que ce soit même l'Arabie Saoudite qui continue de négocier dans une négociation tripartite entre Israël et les États-Unis. Je crois que l'Arabie Saoudite est en train de comprendre que ses besoins de sécurité ne seront pas satisfaits par la Chine, mais uniquement par l'Occident et surtout par le binôme Israël-Amérique. Donc, je crois qu'il y a ici des espoirs. Et quant à l'Égypte, elle sert toujours de médiation au moment des crises à Gaza et ça fonctionne à chaque fois plutôt bien. Donc, voilà, c'est une situation qui est plutôt à la fois calme et positive dans l'esprit des gens.
Alors Daniel, vous nous parlez du Moyen-Orient, donc est-ce qu'on pourrait se demander quel est l'ancrage d'Israël au Moyen-Orient sur le long terme justement?
Écoutez, cet ancrage qui a une perspective de durabilité, il faut rappeler que le Moyen-Orient a beaucoup changé et continue de changer. Le leader du monde sunnite, c'est plus l'Égypte, c'est l'Arabie Saoudite. Le pétrole reste important, mais la pétrole est encore plus importante, les nouvelles industries, la haute technologie. Les grands projets d'infrastructure, l'Arabie Saoudite, son principal projet aujourd'hui, c'est une ville nouvelle qui s'appelle NEOM, qui sera à 200 km au sud d'Eilat, reliée à Eilat par une autoroute. Donc, il est en train de se, de, le moyen en train de se, de Orient, c'est en train de se structurer et en train de devenir une région qui pourrait avoir de l'avenir. Justement, on voit bien que dans ce monde qui est en conflit, ce que nous avons appelé longtemps la globalisation, c'est-à-dire la mise en résonance et en échange de tous les pays du monde, est en train de se fragmenter avec des ensembles régionaux dans lesquels la globalisation s'exerce. L'Asie, autour de la Chine et du Japon, a monté sa propre région, la plus importante du monde, qui fonctionne bien. L'Europe, ça fait 70 ans qu'elle est à la tâche et ça avance bien. L'Amérique du Nord, entre Mexique, États-Unis et Canada, forme une région extrêmement puissante et active. Et au fond, le Moyen-Orient pourrait être une prochaine région. Et cette région, elle appelle au fond beaucoup de monde, et en particulier la Chine. C'est ici le grand discours. La Chine, l'entrée de la Chine au Moyen-Orient est une innovation qui est en train de changer beaucoup de choses. La Chine arrive avec un discours de paix, un discours d'apaisement, un discours à base économique. Je suis l'ami de tout le monde, je suis prêt à faire des affaires à tout le monde, je ne me mêle pas des querelles internes. On n'a que faire des querelles, il faut assurer la prospérité de la région grâce à nous. Et donc, cette entrée de la Chine, elle donne de l'espoir que beaucoup de choses peuvent se passer et que de ce point de vue-là, Israël est plutôt bien placé par rapport à ses perspectives de développement économique parce qu'au fond, c'est le seul pays qui soit avancé, structuré, qui sache comment gérer cette situation et comment comprendre les complexités du Moyen-Orient. Donc, c'est une perspective d'un futur régional de prospérité du Moyen-Orient où Israël pourrait jouer un rôle actif.
Et finalement, Daniel, comment Israël peut articuler cette priorité régionale au Moyen-Orient lorsqu'on sait qu'Israël a une diplomatie tous azimuts et ne peut donc pas se limiter au Moyen-Orient exclusivement?
Oui, mais c'est au fond la réponse est la même. Pour parler à la Chine, pour parler aux États-Unis, pour parler à l'Europe, pour parler à la Russie, il n'y a pas de meilleur endroit finalement que le Moyen-Orient, puisque tout le monde est là. La Chine est en train d'entrer. Les États-Unis, dont on disait souvent et dont on continue à dire qu'elle veut quitter le Moyen-Orient comme elle a voulu quitter l'Europe, mais elle y est revenue. Finalement, la Chine, les États-Unis sont toujours là. Et au fond, les accords d'Abraham ont été pour les Américains une bénédiction parce qu'ils peuvent rester au Moyen-Orient sans y être trop impliqués, puisque d'autres que les Américains sont sur place, les Israéliens, les Émiratis, etc. Donc pour les Américains, Israël est la solution et ça va permettre donc à Israël d'avancer dans sa stratégie qui est de garder les liens les plus étroits avec les États-Unis tout en continuant de parler avec la Chine, avec la Russie et avec l'Europe. Donc si vous voulez, si on devait conclure, on dirait que ce nouveau Moyen-Orient offre à la fois une perspective régionale, une sorte de grand marché commun du Moyen-Orient où Israël jouait un rôle de pivot, et en même temps le lieu où justement, vous parliez d'articulation, où Israël peut articuler les contradictions qui sont inhérentes à toutes les politiques étrangères en disant, ici c'est compatible autour, au fond, de la notion de prospérité. Est-ce que tout ça conduira à la paix? C'est la grande question. On sait que malheureusement, quelquefois, la politique ou la petite politique l'emporte sur les besoins et les désirs de paix des peuples, et c'est le drame de beaucoup de pays, en particulier le drame de cette région.
Merci beaucoup Daniel Haber pour tous vos éclairages. Comme d'habitude, on vous souhaite une excellente semaine et un très bon retour à Paris. Daniel, à très bientôt, à la semaine prochaine.
Au revoir.